une histoire qui en fait commence en 2002. J'étais éditeur à l'époque chez De Noël. Et tout commence par, pas par des chansons, par le vol du livre d'Eric Alphen, à l'époque un immense best-seller. On avait vendu 180 000 exemplaires, hein, qui s'appelait 7 ans de solitude, j'étais l'éditeur d'Eric. Et quelques jours avant sa parution, le Figaro publie des extraits du livre qu'ils ont visiblement récupéré de façon tout à fait illégale, puisque c'est pas nous qui leur avons donné. Mmh. À partir de ce moment-là, et jusqu'à une période extrêmement récente, je vais être en permanence, comme on dit dans le vocabulaire policier, tamponné. Tamponné, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est tamponné avec des guillemets, ça veut dire que je suis, on va dire, repéré comme, et particulièrement après la sortie de nos délits d'initiés, comme une sorte de petit leader d'opinion et d'agent d'influence, qu'on va tenter de manipuler en lui balançant des infos plus ou moins exactes et en testant ma capacité à vérifier si elles sont exactes ou si elles sont fausses. Et ça va aller très loin, puisque je vais même me retrouver à la table d'Yves Bertrand, patron des renseignements généraux pendant 12 ans. Donc quand je le rencontre, il vient de quitter les renseignements généraux, il a pris sa retraite, mais en fait il n'est pas à la retraite, il est à l'inspection générale de l'administration. Et je raconte ce déjeuner absolument incroyable qui a lieu le 10 mai 2004, en présence de deux témoins, à l'hôtel Regina, pour ceux qui connaissent, à Paris, et au cours duquel Yves Bertrand m'explique, et c'est l'un des passages clés du livre, très tranquillement, que Nicolas Sarkozy n'a pas arrêté Yvan Colonna, mais que Yvan Colonna se rendait, et que donc c'est une manipulation du ministre de l'Intérieur, son ancien supérieur hiérarchique. Rien que ça. Vous restez sans voix. Alors je suis resté comme vous.
Sans voix.
Et j'y ai cru. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois, et on me promettait, une équipe de bras cassés et de branquignoles me promettait un manuscrit qui allait expliquer ça. Donc pendant quelques semaines et quelques mois, je suis resté chanson. Et puis j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas, j'ai commencé à décortiquer, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait véritablement un cabinet noir au travail, que ce cabinet noir avait déjà fait des choses, donc volé le livre d'Eric Alphen, tenter de faire publier, alors tout ce que je vous dis est étayé par des preuves dans le livre, hein. Tenter de faire publier pendant la campagne présidentielle de 2002 aux éditions Carnot un livre sur le père de Lionel Jospin, présenté comme un, non pas un pacifiste, mais un collaborateur. Donc j'ai tous les éléments matériels, hein, la lettre de refus de l'éditeur, le nom des auteurs, dont la porteur d'affaires qui est officier des renseignements généraux et qui travaille avec Yves Bertrand. En 2003, ils ont réussi à faire publier à la table ronde, même topo, un livre qui s'appelle « Cet homme a été assassiné » et qui fait la démonstration que Pierre Bérégovoy a été assassiné. On a entendu parler de ce livre à l'époque. Hein.
Tout à fait.
Et bien ce livre, il part d'une note de 32 pages adressée au directeur des renseignements généraux.
Une note blanche ?
Une note blanche, absolument, de 32 pages que j'ai. Hein. À côté de ça, il y a un projet éditorial démarqué de cette note, hein, qui ressemble trait pour trait à la note. Et quand vous prenez le livre, c'est la même chose. Qui là a été écrit par un journaliste qui a travaillé à partir de cette note, et j'ai interrogé Denis Tillinac, l'ami de Jacques Chirac, qui est éditeur de ce livre, qui n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé, lui, pour le coup. Hein.
Ces cabinets noirs n'ont pas fait qu'éditer des livres, ils en ont aussi pilonné.
Alors, on en arrive à l'un des épisodes, qui est l'épisode qui justifie l'article du Canard demain et quelques-uns de mes problèmes. Je pense que mon problème principal, c'est que là, pour une fois, je me trouve directement confronté à l'actuel Premier ministre. Donc, ça se passe en 2004. Dominique Ambiel, qui a eu les soucis que tout le monde connaît, on l'a arrêté avec une prostituée dans des circonstances extrêmement confuses, juste au moment où Dominique de Villepin est devenu ministre de l'Intérieur. Il faut bien noter ce détail, ça fait à peine un mois qu'il est ministre de l'Intérieur. Ambiel se fait choper dans des circonstances, je répète, qui me semblent très étranges, puisqu'il faut savoir, et je l'écris dans ce livre, qu'il y a un numéro à la préfecture de police de Paris dédié aux personnalités, et que quand ce genre de choses arrive, ce numéro est très utile. Et que généralement, ça ne sort jamais. D'accord ? Jamais. Donc là, ça sort dans le monde. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a, c'est ce que je dis toujours dans le livre, textuellement, il n'y a que l'épaisseur d'un rouleau de fax entre le bureau de Dominique de Villepin et celui d'Edoui Plenel. Et donc, ça sort. Donc, catastrophe. Ambiel, pour se venger, décide d'écrire un livre que vous connaissez qui s'appelle Fort Matignon.
Tout à fait.
Ce livre, un beau jour, soudainement, il y a un problème. Jean-Pierre Raffarin téléphone donc Premier ministre à Dominique Ambiel, qui a été limogé, enfin qui a démissionné mais qui a dû partir, et lui dit voilà, Villepin est fou furieux, il y a une note blanche des renseignements généraux qui raconte que tu es en train de monter une maison d'édition, donc on est en juillet 2004, hein, avec Guy Birenbaum et mon ancien associé de l'époque. Alors ça prend tout son sel parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré. Et donc c'est encore une fois une manipulation et un truc totalement pourri, si vous voulez, pour griller en biais en disant comment peut-il travailler avec l'auteur de nos délits d'initié, comment peut-il faire un truc pareil. C'est totalement faux. Donc à partir de là, la machine se met en route. Simplement, il n'y a pas que ça dans cette note. Ce qui est très important dans cette note, c'est un autre passage qui va disparaître, et j'en apporte la preuve, du livre lui aussi, puisque deux pages plus la table des matières sont pilonnées. Ce passage dit, en gros, en biais, il s'amuse un peu, et il dit, dis donc, ces notes blanches si pourries, puisque moi, ce Birenbaum mais ce Rosina, je les connais pas, j'espère que c'est pas le même genre que celles qui parlent de l'affaire des frégates de Taïwan et qui mettent en cause ces jours-ci des hommes politiques, et notamment Paul Sarkozy, donc ce qui prouve qu'il n'a pas eu accès au listing parce qu'il ne sait pas que c'est Naxi Boxa, comme on le sait maintenant, et Nicolas Sarkozy lui-même, et Dominique Strauss-Kahn et Jean-Pierre Chevènement. Ça veut donc dire, pour être clair, qu'en mai, juin, je dirais en mai ou juin 2004, Dominique de Villepin a évoqué avec le Premier ministre des blancs dans lesquels on annonce la mise en cause de ces hommes. Je vous rappelle que l'article, le bal des crapules qui suit, enfin l'article qui suit la lettre anonyme envoyée la principale par le Corbeau sort dans Le Point en juillet 2004.
Une fois de plus, un chronologique qu'on retrouve détaillé et argumenté dans le livre Clearstream, l'enquête de Denis Robert.
Absolument, donc on est parfaitement raccord, je vois que vous avez de bonnes lectures. Et même s'il y a une erreur dans le livre de Denis, si vous regardez bien le tableau, il est daté de juillet 2005, ils ont fait une connerie. La couverture du livre est datée de juillet 2005, alors que c'est juillet 2004, il faut bien faire attention à la chronologie, je l'ai signalé à Laurent Beccaria qui est un copain. Et à la fin du livre, hein, dans les annexes. Et donc, ça colle parfaitement. Et ça tend à montrer que, au-delà de l'envoi par le Corbeau, ou avec l'envoi par le Corbeau, enfin, appelons-le par son nom, Jean-Louis Gergerin, il y a aussi des blancs DRG, de mes amis DRG, qui circulent. Et que donc, Dominique de Villepin, bah, il les a évoqués. Et
alors, donc, quand vous dites des blancs, juste pour que les internautes, les auditeurs nous comprennent bien, les blancs, c'est des notes blanches DRG. Qu'est-ce qu'une note blanche exactement?
Je voudrais, pour faire rire les internautes, leur apprendre que les notes blanches ont été supprimées en octobre 2002 par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.
Ce détail a son importance.
Voilà, donc elles ont été supprimées, et donc malheureusement, elles n'ont pas du tout été supprimées, elles existent toujours, même si elles sont un peu mieux ciblées. En gros, c'est une note qui donne des informations non vérifiées et dont on ne peut rien sourcer, pour faire court, et qui ont servi dans l'histoire des renseignements généraux à monter les pires cabales et les pires rumeurs, la pédophilie de tel homme politique... jamais payé, jamais prouvé, les malversations financières de tel autre, on peut faire un livre avec les notes blanches. Et donc, un blanc, c'est ça. Et ce blanc, donc, totalement pipoté, là, pour le coup, ce que Ambiel révèle des conversations sur les blancs est très inquiétant, en tout cas très intéressant, me semble-t-il, dans le cadre de l'affaire Clearstream, deux ans plus tard.
Et donc, deux pages de ce livre sont pilonnées. Que contenaient ces pages? Est-ce que vous les éditez, vous, aujourd'hui?
Bien sûr, elles sont dans mon livre. Donc, il y a le récit de Birenbaum monte une maison avec Ambiel, ce qui m'a fait beaucoup rire, surtout qu'elle était déjà montée. Et puis, ce que je viens de vous raconter, à savoir que Ambiel se gosse d'un ministre de l'Intérieur qui se sert de documents aussi foireux, et donc qui fait le lien avec Clearstream. Mais qui n'est pas Clearstream à l'époque, comme le dit le Canard demain. C'est l'affaire des frégates. Parce qu'on ne sait pas que ça s'appelle Clearstream à l'époque. On n'a pas fait le lien. On est toujours dans l'affaire des frégates. Donc je publie ça, je publie la table des matières, et je publie encore mieux que ça. Je publie la version de travail que j'ai réussi à récupérer, qui est avant les épreuves du livre, parce que moi ce que je publie, c'est le livre lui-même qui a été pilonné, les 12 000 exemplaires qui ont été pilonnés, les pages, mais j'ai aussi les épreuves précédentes, dans lesquelles il y a une toute petite pique encore plus drôle. Il se trouve, figurez-vous, que l'éditeur, c'est pas Guy Birenbaum, contrairement à ce que disent les renseignements généraux, c'est Olivier Orban. Et qui est Olivier Orban? Je pense que les internautes auront plaisir à l'apprendre, c'est l'éditeur de Dominique de Villepin. Donc Dominique de Villepin est super mauvais, parce qu'il ne sait pas à l'époque que c'est son éditeur et ami, ils sont très proches, qui édite lui-même Dominique Ambiel. Ce qui va faciliter les choses quand il va être question de pilonner le livre, puisque tout ça va se faire, d'une certaine façon, entre bons amis. Mais entre bons amis, croyez-moi, et c'est le récit qui est fait demain dans Le Canard et qui est intégralement dans mon livre sur une vingtaine de pages, il y a une réunion le 8 mars 2005 qui a lieu au pavillon de musique qui se trouve dans les jardins de Matignon, puisque Ambiel il est plutôt tricard, et qui réunit le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Dominique de Villepin, et qu'il y ait une réunion de crise, parce que Ambiel a exigé que Villepin vienne lui expliquer ce qui s'était passé dans l'affaire dans laquelle il a été arrêté avec une prostituée, parce qu'Ambiel est persuadé, absolument persuadé, que c'est un sale coup des services de Villepin et Cabinet Noir et autres. Et je décris cette scène absolument hallucinante, au cours de laquelle Dominique de Villepin fait porter la responsabilité de l'arrestation de Dominique Ambiel à qui, devinez qui ?
Vous allez nous le dire.
Nicolas Sarkozy.
C'est une guerre entre ces deux hommes qui anime l'essentiel de ces manipulations, vraisemblablement.
Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui... Ce qui me concerne, c'est quasiment... Je ne peux pas faire un pas sans me retrouver avec des amis des uns ou des amis des autres qui essayent de balancer des trucs sur les uns ou sur les autres. Il y a un chapitre d'ouverture qui s'appelle « Le dingue et le nabo ». Donc le dingue, c'est comme ça que les sarkozistes appellent Villepin, et le nabo, c'est comme ça que les villepinistes appellent Sarkozy.
D'accord. On voit dans le livre également que d'autres sont écorchés, les éditeurs, l'univers des médias et celui de la presse, mais en particulier le monde de l'édition. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?
Bah, c'est ce que Olivier Orban, je pense pas qu'il va spécialement apprécier dès demain dans le Canard Enchaîné de voir dévoiler qu'il a accepté de pilonner 12 000 exemplaires d'un livre pour faire plaisir à son ami ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est sans doute la raison pour l'une des raisons pour lesquelles mon éditeur, que j'estime, hein, Jean-Marc Roberts, a décidé de ne pas publier ce livre. C'est une des raisons, c'est pas la seule. Je fais aussi le récit de la façon dont Nicolas Sarkozy en son temps, su dissuader les éditions First de publier la biographie de C. Faut l'appeler C maintenant, hein, comme Nicolas Sarkozy l'appelle C dans son livre, c'est-à-dire témoignage, donc je l'appelle C. Et par ailleurs, du limogeage d'Alain Genestard, je vous rappelle que les éditions Stock appartiennent à...
Hachette.
Arnaud Lagardère. Voilà, donc ça plus Clickstream, dont je vous rappelle que ADS... l'actionnaire, c'est Lagardère, plus la confraternité, comme m'a dit Jean-Marc Roberts, vis-à-vis de son confrère Olivier Orban, qui est quand même sacrément écorché, ça fait un ensemble qui a contribué à sa décision, que je respecte, même si je la regrette, parce que c'est un très bon éditeur, et ça m'aurait fait plaisir de continuer avec lui.
Alors aujourd'hui, ce livre n'a pas d'éditeur, en tout cas pas de manière définitive, même si vous avez probablement eu d'autres contacts entre-temps, vous cherchez...
Le papier n'est pas sorti, on est vraiment sur le fil du rasoir, comme vous le disiez, donc... Alors qu'il est, il y a très peu de gens qui savent, d'abord que je préparais un livre, parce que à part les blogueurs qui viennent de temps en temps et qui me font la gentillesse de venir, qui fait quand même beaucoup de monde, mais dans le milieu, ça s'est pas tellement dit. Et puis, par ailleurs, comme le papier du canard n'est pas sorti, on va voir demain, puisqu'il est spécifié que je suis à la recherche d'un éditeur, si ça provoque quelque chose. Vous savez, dans ce pays, je suis pas sûr que ça va provoquer quelque chose, hein.
Ben, c'est un test in vivo en tout cas qu'on va faire, et moi je vous propose de vive voix aujourd'hui qu'on essaye de publier aussi quelques-unes des meilleures feuilles, quelques extraits
on le fera.
Sur les blogs, et je serais ravi qu'on puisse collaborer pour cela.
On le fera, donc là je vais avoir, je pense, des contacts, j'ai déjà un ou deux camarades qui sont dans l'édition, qui ont jeté un œil et qui ont été extrêmement gentils avec moi après leur lecture, ça ne signifie pas forcément qu'ils vont vouloir le publier, ceci étant, on va rassurer tout le monde, j'ai une maison d'édition. Alors moi sur le principe, je suis contre l'auto-édition. C'est-à-dire que je ne veux pas m'éditer. Ça veut dire que si jamais je ne trouve pas d'éditeur, il est tout à fait envisageable que j'édite ce livre chez Privé, mais ce n'est pas moi qui l'éditerai. Je demanderai à un éditeur, un vrai, peut-être inconnu, pourquoi pas Laurent Beccaria, je lui lance un appel là, de venir éditer ce livre chez moi, parce que, comme tout le monde, j'ai besoin d'un éditeur.
J'espère qu'il vous aura entendu, mais je doute pas qu'il ait déjà eu vent de cette perche de tendu.
Il est un petit peu en vacances.
D'accord.
Il va lire Le Canard.
Pardon ?
Il va lire Le Canard.
Je souhaite, et puis j'espère qu'il nous écoutera. Trois questions concrètes, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent d'inconscient en livrant une telle bombe ?
D'inconscient ? Bah écoutez, la même chose que j'aurais répondu en juillet 2003 quand j'ai publié nos délits d'initiés, continuez à vous regarder dans la glace et je comprends que ce que vous voyez dans le miroir vous fasse peur.
Même réponse donc à ceux qui vous traitent de pamphlétaire et qui disent que
vous... Pas un pamphlet, c'est une enquête et Jean-Marc Robert s'est justifié... le fait qu'il ne publie pas ce livre aussi par le fait qu'il s'attendait à ce que ce soit un pamphlet et pas une enquête. Ça n'est pas un pamphlet, c'est une enquête. On m'a critiqué quand j'ai sorti nos définitions en disant il n'y a pas de preuves. Je reviens 3 ans après avec des valises de preuves.